Bienvenue sur le Déclic, le podcast sur la quête de sens au travail. Aujourd'hui, on se retrouve avec Manon, jeune entrepreneur reconverti en tant qu'hypnothérapeute et coach en PNL, c'est-à-dire en programmation neurolinguistique. Dans cet épisode, on part à l'écoute du témoignage de reconversion de Manon et nous découvrirons également comment la pratique de l'hypnose peut accompagner beaucoup de personnes dans leur introspection professionnelle. Après de longues études à l'international et un premier emploi en tant qu'attachée de presse pour une maison d'édition, Manon réalise que le salariat n'est pas fait pour elle et décide de suivre une intuition qui l'habite depuis toujours, entreprendre. Elle ne sait pas dans quel domaine en particulier, mais décide de prendre le temps de s'écouter. Elle découvre en parallèle l'hypnose et après des mois d'introspection, dessine peu à peu son projet de reconversion pour devenir hypnothérapeute afin d'accompagner les personnes désireuses de changement au niveau professionnel. En septembre 2020, après avoir négocié une rupture conventionnelle, Manon se lance enfin dans l'aventure de l'entrepreneuriat et se forme à l'hypnose et au PNL. Elle nous raconte aujourd'hui les déclics qu'elle a eus pour entreprendre cette reconversion et comment le choix de l'hypnose s'est imposé naturellement à elle. On évoquera également dans l'épisode ce qu'est l'hypnose exactement et de la volonté que Manon a pour rajeunir et vulgariser cette pratique auprès de tous. Vous êtes sur le déclic et je vous souhaite une bonne écoute. Rejoindre pour le déclic.
Salut, c'est Anne.
Tu es hypnothérapeute et coach en programmation neurolinguistique. Tu pratiques l'hypnose pour accompagner les gens qui ont des problèmes, ont des difficultés ou des peurs, mais je pense que le mieux, avant que moi je m'égare dans une définition qui serait peut-être pas tout à fait vraie, je te propose que tu nous apportes plus de renseignements sur ce que c'est l'hypnose, parce que je pense que en majeure partie, la plupart des gens imaginent l'hypnose comme étant un peu en dehors des clous pour se soigner ou trouver une réponse à quelque chose. Mais du coup, voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette pratique et sur ce que tu fais toi en particulier ?
Ouais, ça marche. Alors en effet, comme tu le dis, Océane, je pense que pas mal de gens ont entendu parler de l'hypnose sans vraiment nécessairement savoir ce que c'est. L'hypnose aujourd'hui, c'est associé soit d'une part à tout ce qui est spectacle, donc par exemple Mesmer, donc les trucs où tu te retrouves avec les mains collées ou à dormir debout, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté magie-spectacle. À côté de ça, il y a toute une pratique plus thérapeutique, d'où le nom de la profession hypnothérapeute. Donc ça ne se substitue pas à des professions médicales, bien entendu. Néanmoins, l'hypnose permet pas mal de choses, notamment en premier lieu tout ce qui est perte de poids, arrêt du tabac, et c'est en train de se démocratiser pour ces sujets-là. Mais ça permet aussi plein d'autres choses, de combattre des peurs et des phobies, de dépasser des traumas. Donc il y a toutes ces choses un petit peu plus, on va dire, négatives, travailler sur le passé, etc. Mais il y a également un côté plus sublimation et positif à l'hypnose, dans le sens où ça peut accompagner à l'apprentissage, par exemple l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un instrument. Ça peut aider à développer les performances, notamment dans le cadre sportif, tout ce qui est préparation mentale, qui est utilisé par de nombreux athlètes de haut niveau, qui permet de travailler avec des techniques de méditation, d'hypnose, de PNL également, sur l'amélioration de ses objectifs. Tout le côté aussi, se détacher de comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Il n'y a pas vraiment de toute façon des comportements positifs ou négatifs, puisque derrière, il y a toujours des intentions positives. Mais voilà, en fait, c'est un peu changer sa vie, changer sa vision de la vie grâce à l'hypnose.
Et j'imagine qu'actuellement, ça doit être quelque chose que beaucoup de personnes doivent se tourner, parce qu'on remet beaucoup en question, je trouve, notre vie, peut-être parce qu'on est confiné chez nous, mais je sais pas.
Bah non, mais c'est sûr, tu as totalement raison. Je pense qu'on l'a tous vu dans la presse cette dernière année, en fait, en 2020, que malheureusement, beaucoup de cas de dépression qui augmentent, de mal-être en général, de burn-out, etc. Mmh. Et en effet, en fait, l'hypnose, ça peut aider par rapport à ça, dans le sens où ça permet d'accompagner les gens pour réévaluer leurs priorités, leurs valeurs, le sens qu'ils donnent à leur vie, leurs objectifs également, parce qu'on a tous des rêves, je pense, mais quand on revient à aux pratico-pratiques et à la réalité du quotidien, parfois en fait on se rend compte qu'on ne prend pas les actions nécessaires au quotidien pour agir vers nos rêves, vers nos objectifs, et que bah, potentiellement en fait on vit une vie qui n'est pas la nôtre.
Mais moi je trouve ça très intéressant, je pense qu'on va parler un peu plus en détail tout à l'heure de l'hypnose, de comment ça se pratique, et peut-être que tu nous donneras également... toi, comment ça se déroule à peu près et donc, tu es tout récemment dans cette profession. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler de cette reconversion. Donc, pourquoi l'hypnose et comment tu t'es reconvertie. Donc, on va pouvoir l'évoquer plus tard. Avant ça, j'ai des questions sur justement qui es-tu, Manon. Comment es-tu venue à l'hypnose, mais aussi comment, qui es-tu et quelle profession, Manon, petite, voulait faire, en fait, au final?
Alors, qui je suis? C'est une très grande question philosophique. Hein. Moi-même, je ne suis pas certaine de savoir encore. Néanmoins, pour répondre à ta question, quand j'étais petite, j'étais déjà une slasheuse. Ouais. Hein. Je voulais faire plein de choses à la fois. Je voulais être écrivain, conférencière, aventurière, égyptologue, pour faire simple. Hein. Voilà, après, ça, c'était vraiment en primaire. Et après, au collège, j'ai commencé à m'intéresser au journalisme. Ouais. Et puis finalement, bon, dans mes études, je me suis dirigée, je suis restée dans la com culturelle. Et comme tu l'as dit, avant de me reconvertir et de passer ma certification en fin d'année 2020, j'étais attachée presse dans le cinéma et dans l'édition.
D'accord, ouais, donc c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant parce que du coup, il me semble que tu as fait des longues études, des études internationales, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et donc, au final, l'idée de profession que tu avais en faisant ces études.
Ouais, alors, donc du coup, on va repartir du collège-lycée où je m'intéressais à tout ce qui était journalisme, communication. J'étais pas nécessairement sûre exactement de ce que je voulais faire comme métier. Ça me paraissait un peu abstrait parce que forcément, j'étais très jeune. Donc, sans connaître la réalité du terrain, c'est toujours un peu difficile de se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mmh. Néanmoins, vu que j'étais une bonne élève, j'ai intégré une classe euro au collège et j'ai continué, en fait... J'ai eu l'opportunité d'intégrer un lycée sur concours pour passer un bac international. Mmh. Donc c'était un lycée à Lille. C'était la première année qu'ils ouvraient leur classe à une classe internationale, ce qui permettait d'avoir un bac international. Pour moi, c'était une option britannique. Donc, okay. En gros, sur la semaine, j'avais 10 heures de littérature anglaise, d'histoire géo en anglais, de cours de linguistique, etc. Donc, je me destinais à des études qui étaient plus vers l'international, sans trop vraiment savoir quoi. De ce fait-là, quand j'ai commencé mes recherches sur quoi faire après le bac, je me suis intéressée à Sciences Po. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un institut particulier de Sciences Po, parce qu'il y en a plusieurs en France, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Paris, mais il y en a aussi 6 en province, plus 2 indépendants à Grenoble et à Bordeaux. Et il y avait un de ces instituts, celui de Bordeaux, qui proposait des cursus internationaux, c'est-à-dire que sur les 5 ans d'études post-bac, tu pouvais passer, au lieu d'une année en Erasmus, tu passais 2 années, la première et la troisième, à l'étranger. Et à la fin de ton cycle d'études, tu avais non seulement ton Master 2 de Sciences Po dans la qualification que tu choisissais, et en même temps, l'équivalent d'un bachelor, moi, parce que j'ai fait mes études au Royaume-Uni, du coup, dans l'école où j'étais. Donc, en fait, j'ai fait une année de prépa aux instituts d'études politiques avec une licence de philosophie. Ensuite, j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Bordeaux et je suis partie donc la première et la troisième année à Cardiff, au Royaume-Uni. Mmh. Et ensuite, pour mon master donc, qui était à Bordeaux, là, j'ai intégré un master international en affaires internationales et ça m'a permis, la cinquième année, de partir en Californie. En fait, je faisais ça à la base pour travailler dans tout ce qui était diplomatie, Nations Unies, ou alors dans tout ce qui était think tank. Donc vraiment les relations internationales pure et dure.
Donc des études plutôt soutenues, j'imagine quand même en termes
Oui.
pour avoir des cursus entiers dans d'autres villes, dans d'autres pays qu'en France, j'imagine que c'est assez soutenu. Et du coup, comment tu pourrais décrire ta première expérience salariée?
Alors en fait, c'était assez particulier parce que justement, du fait de mes études, il y en a pas mal en tout cas de mes amis qui pouvaient faire des stages ou des alternances ou des césures dans le cadre de leurs 5 ans d'études post-bac. Mais moi, vu que j'alternais une année sur deux, à chaque fois j'étais dans un pays différent, je ne pouvais pas faire de césure par exemple, et même les stages c'était compliqué parce que ça se terminait pas, j'avais pas assez de temps l'été. Donc du coup en fait j'ai fait tout mon cursus qui était en plus un cursus assez théorique dans la recherche, à la fin j'ai pas fait de stage de fin d'année pour mon master, j'ai fait un mémoire. Du coup je n'avais jamais fait de stage et je n'avais pas d'expérience professionnelle.
Ah oui, le grand bain, le aussi, grand pot, ouais.
C'est ça, donc ça aussi c'était un petit peu problématique et en fait à la fin de ma 5e année j'ai commencé à me rendre compte que bien que ce que j'étudiais m'intéressait beaucoup dans le sens où c'était intellectuellement stimulant et c'était très enrichissant, je ne me voyais absolument pas travailler là-dedans plus tard et en fait j'ai décidé de valoriser sur mon CV des expériences extracurriculaires parce que en fait j'écrivais des critiques pour une maison d'édition en ligne, j'écrivais des articles pour un magazine participatif en ligne également, donc j'ai décidé de valoriser ces expériences qui étaient plus culturelles pour essayer de trouver un emploi à Paris dans la communication culturelle. Et le hasard a fait que j'ai su trouver assez rapidement un premier poste en tant qu'attachée presse dans le cinéma, où en fait on m'a donné ma chance et en plus je suis tombée sur, c'est une petite agence et le boss s'en foutait un peu des CV, tu sais, c'est un peu le genre de personne qui regarde vite fait, mais après il préfère juste avoir une conversation avec toi, voir ce que tu regardes, ce que t'écoutes, comment tu te comportes et tout, et c'était plus au niveau du feeling que ça s'est passé qu'au niveau des compétences, et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie professionnelle avec, c'était un CDD du coup sur un an et qui m'a lancée en fait dans ma deuxième expérience après qui était plus axée sur l'édition.
Ce que tu m'avais dit, c'est que tu te reconnaissais pas en fait dans le salariat. Est-ce que tu pourrais aller plus loin par rapport à cette phrase que tu m'avais dit
Ouais, tout à fait. En fait, déjà, relativement jeune, je me disais que un jour je créerais ma boîte ou en tout cas que je serais libre de mon propre temps. Donc, potentiellement à mon compte, freelance, je ne sais quoi. Mais se lancer à la fin de ses études quand on n'a pas forcément d'expérience pro, c'est pas évident. Donc du coup, ça m'intéressait vraiment d'avoir ces premières expériences professionnelles dans la com culturelle. Et j'ai pas regretté, mais c'est vrai qu'en arrivant dans ces postes-là, le côté, même si on avait quand même une certaine liberté au niveau des horaires, hein, j'en étais pas à devoir demander, comme pour certains ça l'est, l'autorisation de partir pour un rendez-vous médical une demi-heure avant ma fin de journée de travail, donc ça j'avais de la chance aussi, mais c'était un rythme qui était assez particulier, il y avait quand même une certaine culture du présentéisme, c'est-à-dire qu'il faut être au bureau même si l'activité est un peu moins soutenue, parce que forcément dans la culture, l'été c'est un peu plus creux, ou aux périodes de Noël c'est un peu plus creux, il y avait un peu ce truc-là de se lever tous les matins pour faire la même chose, plus ou moins, même si c'est des projets différents à chaque fois, et le fait d'avoir une hiérarchie, alors j'ai pas forcément de problème avec l'autorité, hein, mais c'est vrai que j'aime bien prendre mes propres décisions et me dire, si j'ai envie de travailler le dimanche à 18h, c'est bon, mais si j'ai envie de partir le mardi à midi parce que je suis fatiguée, j'aimerais bien aussi pouvoir le faire, et tout ça, c'était plein de petites choses qui n'étaient pas possibles au-delà de la vie d'entreprise comme elle l'est actuellement, quoi. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans une continuité de l'école, avec des horaires imposés, avec des deadlines imposés, avec des objectifs imposés, que dans tous les cas, ce serait jamais assez, qu'il fallait toujours faire plus. Et demander pour avoir ces 5 semaines de vacances par an, etc. Et je trouvais ça en fait extrêmement frustrant, parce que du coup, pour moi, toute ma vie, ça allait être une prolongation de ce rythme-là, et ça me paraissait assez insensé. c'est un peu, je sais pas, morose à dire comme ça, mais non, c'est non. Vraiment la façon dont je le ressentais. Alors après, ça veut pas dire que j'ai pas apprécié mes expériences, ouais. Hein, au contraire. Mais c'est vrai que j'ai travaillé 3 ans en tout, là. Et j'ai vu ce que c'était,
Et ça t'a pas tout fait. Non, mais c'est, enfin, c'est pour ça que j'aime bien. Après, voilà, moi, souvent, c'est ce que j'aime bien rappeler aussi dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas forcément un choix à faire entre salariat ou entrepreneuriat.
Tout à fait.
Ou qu'on ne va pas opposer l'un et l'autre. Mais j'aime bien aussi, y en a qui ont toujours eu la fibre entrepreneuriale en eux, qu'il y en a qui l'ont toujours su. Et j'aime bien avoir justement ce point de vue. Je pense que le salariat est très bien, elle peut apporter des choses et que voilà, j'ai pas envie de le dénigrer à travers le podcast. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, t'as pas eu de problème avec ta hiérarchie et voilà, t'as quand même eu, enfin voilà, je pense une expérience, voilà, mais c'est juste que ça ne te parlait pas. Ce que j'aime rappeler aussi, c'est que, et avoir les points de vue de personnes qui ont peut-être travaillé, qui n'ont pas aimé ce côté salarial, sans faire de burn-out ou de bore-out, montrer que peut-être l'emploi aujourd'hui est peut-être un peu dépassé. Donc, comme on avait discuté avant d'enregistrer, que peut-être il y a cette forme de présentéisme, comme tu l'as dit,
ouais, totalement.
De hiérarchie, qui peut-être aux yeux de peut-être des supérieurs ou des patrons n'est pas grand-chose en fait, mais il y a une idée de confiance qui parfois n'existe pas. Alors,
c'est vrai qu'en France, on est vraiment pas mal lotis hein, au niveau des lois du travail, etc., et la protection des salariés. Il y a vraiment énormément d'avantages. Moi, d'ailleurs, si je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai pas d'attache, entre guillemets, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de grosses responsabilités derrière moi, ce qui me permet aussi d'avoir pris la décision assez facilement, finalement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a un gap, en fait, un écart entre notre génération, donc on va dire ceux qui ont la vingtaine, trentaine, et la façon dont le monde du travail fonctionne aujourd'hui, parce que forcément c'est tellement une super structure qui est imbriquée dans la société et qui fonctionne comme ça dans tous les domaines, que c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain et c'est pas quelque chose qui peut évoluer en même temps ou au même rythme que les mentalités des êtres qui composent la société. Et c'est vrai que nous, on est la génération aussi Internet, on est la génération entrepreneuriat. Là, avec le confinement, on voit plein de choses aussi qui sont en train de se passer sur les projets de reconversion, sur tout ce qui est aussi la quête de sens. Donc, c'est vraiment des problématiques en fait, qui se rajoutent à cette sphère un peu du travail. Moi, j'ai une vision qui est assez particulière et qui n'est vraiment pas partagée par tous, mais c'est que j'ai un peu une mixité, en fait. C'est poreux, la frontière entre la vie pro et la vie perso. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas de bosser le dimanche, d'être en vacances, mais de bosser un petit peu aussi, à partir du moment où je trouve mon équilibre. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est de trouver son équilibre.
D'être aligné avec ce qu'on fait. Mais du coup... En parlant du coup de salariat, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour toi, ta découverte dans le monde du coup de l'hypnose? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu, que tu savais déjà à l'origine, ou qui est venu à toi d'un coup comme ça, comme un déclic, hein? Donc, ouais, quel a été au final ton déclic pour te reconvertir, mais en particulier dans l'hypnose en fait? Comment ça s'est fait?
Alors, la découverte de l'hypnose en elle-même, ça a été quelque chose d'assez progressif, dans le sens où, en fait, moi-même, en arrivant sur Paris, donc c'était il y a environ 3 ans maintenant, j'ai suivi une hypnothérapeute en tant que cliente. Donc, on a fait un suivi, voilà, un travail de fond sur plein de choses, et notamment sur le côté pro, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas aligné, qui n'allait pas, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai fait 9 mois de suivi avec cette personne, et j'ai trouvé ça incroyable, en fait, les changements déjà que j'ai vus en moi, les changements de perception, de vision du monde, tout ce qui en a découlé, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'ai vraiment adoré la façon dont c'était amené, le fonctionnement des séances, le fonctionnement de l'hypnose, tout ce qu'il y a derrière, avec l'inconscient, etc. Je trouve ça assez passionnant, parce qu'en fait, moi-même, depuis maintenant 6-7 ans, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est développement personnel. Donc, je lis pas mal de bouquins, de documentaires, je fais des exercices, des séminaires, des petites formations en ligne, tout ça. Donc, c'était un peu dans la continuité que ça s'est inscrit. Et quand j'ai commencé donc à me dire peut-être que ce serait le moment de me lancer à mon compte, En fait, je l'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que je me suis d'abord dit que j'aimerais bien me reconvertir pour faire quelque chose en étant à mon compte, en étant auto-entrepreneur ou en lançant voilà, ma boîte, mais je ne savais pas quoi, en fait. Parce que j'avais plein de choses que j'aimais bien faire, j'aimais bien voilà, écrire, lire, faire des trucs sur Internet, des podcasts, y avait plein de choses, mais j'arrivais pas à trouver de lien, de base à tout ça qui me permettrait de me donner une légitimité professionnelle et de construire un projet qui soit cohérent. Et donc pendant le premier confinement, vraiment, je commençais à en avoir marre du travail où j'étais. Je ne voyais plus continuer là-dedans. Petits exercices, les fameux ikigai. J'ai regardé plein de vidéos YouTube pour essayer de trouver ça. Et petit à petit, en fait, je suis revenue à l'hypnose. Je me suis dit, mais parce que je faisais de la méditation aussi pour un peu clarifier mes pensées. Et je me suis dit, mais en fait, l'hypnose, c'est pas que justement les traumas, l'arrêt du tabac, la perte de poids. C'est aussi tout ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire les questions de reconversion pro, les questions d'identité, qui je suis, etc. Et je me suis dit, mais ça me passionne. Et en fait, le déclic, vraiment, ça a été de parler avec mon entourage et d'entendre mon entourage se plaindre, toute raison gardée, mais se plaindre en fait de leur vie pro. Et je le rappelle, c'est des gens de mon âge, donc entre, on va dire, 25 et 35 ans, et qui me disaient, mon travail, ça me plaît pas, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Moi, j'aimerais bien me reconvertir en tant que, pâtissier ou danseur professionnel, mais pas tout de suite parce que pour l'instant je mets de l'argent de côté. Des gens qui ont eu des problèmes avec leur hiérarchie, des problèmes humains pour le coup, des gens qui ont fait des burn-out. Et je me suis dit, mais c'est quand même super problématique. Et la majorité de mon entourage a eu des problèmes dans son environnement pro. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, c'est pas normal. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à élaborer mon projet, à faire davantage de recherches sur l'hypnose, et que j'en suis arrivée aussi à tout ce qui est technique de coaching, notamment la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui permet de travailler beaucoup aussi, aussi là-dessus. Et donc là, j'ai découvert vraiment un nouveau monde avec toutes les possibilités que ça offrait.
Et donc, à partir du moment où tu as su que ton métier, ton ancien métier ne te plaisait plus et que tu souhaitais te reconvertir, et le moment où tu as su dans quoi, ça t'a pris combien de temps à peu près ?
Précédent job en tant qu'attachée presse dans l'édition, j'y suis restée 2 ans. Donc du coup, je pense que c'était au bout de 10-12 mois, au bout de 10-12 mois, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait de rester dans l'agence où j'étais. Et donc j'ai commencé à réfléchir, à passer d'autres entretiens aussi dans d'autres agences, dans d'autres entreprises un petit peu différentes, c'était pas attaché presse pure et dure, pour un peu aussi m'ouvrir à d'autres choses et me dire peut-être que c'était juste le poste en lui-même qui ne me convenait plus, mais peut-être que je pouvais élargir à d'autres fonctions. Et finalement, en fait, c'était pas quelque chose qui me transcendait. Donc du coup, je me suis dit non, en fait, il faut vraiment que je m'écoute, que j'écoute le désir profond que j'ai en moi depuis quand même plusieurs années. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ça, on va dire en décembre 2019, janvier 2020. Et je me suis donnée à fond dans la réflexion avec le confinement.
Et donc tu as dit que tu avais vu des vidéos YouTube et que c'est par rapport. C'est aussi en écoutant tes proches. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé aussi à faire ton introspection en plus de la méditation
En fait, paradoxalement, je suis quelqu'un qui aime bien faire énormément de choses à la fois et en même temps, et différentes. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment le temps qui m'a aidée. Parce que je voulais me précipiter, j'avais plein d'idées, plein de projets. Mais il n'y avait pas l'espèce de petite étincelle qui fait que c'était le truc que je savais qui allait me porter et surtout me garder engagée à long terme. Parce que c'est bien facile de dire « Ah, je vais être chanteuse et me lancer pour faire des covers pro de Céline Dion ». Mais faut aussi pouvoir se visualiser dans sa nouvelle fonction sur plusieurs mois, plusieurs années. pour que le projet reste pérenne et qu'on garde cet engagement, cette motivation pendant les moments les plus compliqués aussi. Parce que forcément, il y en a un petit peu. Et donc, du coup, oui, c'est ça, se laisser un peu le temps et échanger avec les gens. Pas rester dans sa bulle en se disant « Oh mon Dieu, il faut absolument que je trouve quoi faire, j'ai rien fait de ma journée aujourd'hui, et donc du coup, c'est une journée perdue. » Parce qu'en fait, ça fait partie du processus. C'est tellement un gros changement de vie, parfois, qu'il faut aussi accepter de laisser la réflexion se poser. Et des fois, en fait, on a des illuminations en se levant le matin après une bonne nuit de sommeil.
J'aime bien pour ces témoignages de personnes justement qui souhaitent se reconvertir, mais ne savent pas dans quoi. Je pense qu'on doit être tellement nombreux. Et chaque invité, à chaque fois, apporte une nouvelle façon de le voir. Mais effectivement, ne pas se précipiter. Je pense qu'on est tous... je pense que quand on est dans cette situation, on sait qu'on n'est pas bien dans son emploi. On n'a vraiment qu'une envie, c'est d'en sortir.
Exactement. Puis en plus, il y a un peu ce côté de... notre société aujourd'hui, c'est un peu aussi le culte de la vitesse, de la rapidité, de la performance. Il faut toujours faire plus rapidement et mieux. Et donc forcément, quand on sait que ça ne va pas et quand on sait qu'on veut changer d'une situation mais qu'on ne sait pas vers quoi on veut aller, c'est super frustrant parce qu'en fait, on culpabilise. Alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, c'est un processus aussi qui prend du temps et qui est totalement normal. Si on pouvait trouver la solution en un claquement de doigts, ce serait un peu trop facile, j'ai envie de dire.
Non, mais toi, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça s'est fait en écoutant les autres, en fait. Et que t'as fait le lien peu à peu. T'as pas consulté quelqu'un ou t'as pas... Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que t'as testées pour savoir cette voie ou...
Non, en fait, du coup, j'avais travaillé avec l'hypnothérapeute que je voyais du coup sur ce côté un peu pro, et je savais du coup qu'un jour je me porterais à faire quelque chose en auto-entrepreneur. J'avais pas du tout en effet creusé le côté hypnose, accompagnement, et c'est vrai que oui, c'est en écoutant les autres et aussi des fois, parfois, écouter ce que les autres pensaient de moi.
Ouais.
Et de ce que je pouvais faire, de mes qualités aussi, parce qu'on n'a pas forcément conscience de ses qualités, on a souvent conscience de ses défauts, mais pas de ses qualités. Donc ça, c'était intéressant. Et ce qui a confirmé, on va dire, mon choix, c'est quand j'ai commencé à me documenter sur les différentes écoles enseignant ce que je voulais apprendre. Et j'ai lu les programmes, en fait.
Ouais.
Et en lisant les programmes, après, j'ai regardé un petit peu des témoignages sur Internet de gens qui s'étaient reconvertis là-dedans. J'ai vu vraiment le pratico-pratique de ce qu'ils apprenaient.
Ouais.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qui m'intéresse.
Ouais.
Et j'ai retrouvé tous les côtés psychologiques, tous les trucs des exercices, en fait, que je faisais aussi pour trouver ce que je voulais faire. Donc, la boucle était bouclée à ce moment-là.
Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, ça permet de faire une belle transition vers la formation que tu as suivie. Avant ça, tu as aussi fait du coup tu as négocié ta rupture conventionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, alors honnêtement, ça a été assez simple, assez fluide et rapide. J'ai pris la décision d'appeler mon patron quand on était encore. En fait, on venait de reprendre, c'était après le premier confinement.
Quand même.
Et c'était. Donc c'était un peu plus tard, là, c'était en juin-juillet.
Okay.
On avait repris, on était toujours à temps partiel, toujours en télétravail.
Ouais.
Et on devait tous se retrouver au bureau dans les locaux fin août pour la rentrée littéraire.
Mmh.
Et je me suis dit que ce serait plus correct de ma part de l'appeler avant, même si c'était par téléphone et pas en face, mais au moins pour le prévenir de ce désir-là. Donc en fait, je l'ai appelé et c'était 2-3 jours avant que l'agence ferme pour les 3 semaines de vacances. Et je lui ai exprimé mon désir de négocier une rupture conventionnelle pour une reconversion. Et en fait, lui, il a dit qu'il était OK parce que dans tous les cas, économiquement parlant, c'était intéressant pour l'agence au vu du Covid et quand on voit l'impact que ça a eu sur le monde de la culture.
Mm-hmm.
Donc d'une part, de son côté, il n'y avait pas de souci. Et d'autre part, vu qu'en plus c'était une reconversion, comme il m'a dit, au moins tu pars pas chez la concurrence, donc j'ai rien à te dire.
C'est un bon patron, c'est un très bon patron.
Voilà, donc ça s'est bien passé, on s'est mis d'accord sur la date du 2 octobre, comme ça en fait je me suis engagée, j'avais un déplacement encore à faire pour un festival en Corse qui était fin septembre, donc ça j'étais, ouais voilà, c'était un peu partir sur les chapeaux de roue, vu que c'était moi qui étais responsable de ce dossier, je me suis engagée à le terminer jusqu'au bout, et du coup on s'est mis d'accord sur la date du 2 octobre, et voilà, et tout s'est fait assez naturellement finalement.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en termes de formation? Est-ce que t'as été aidée, tu as dit que tu as fait tes recherches pour chercher une école et etc. Est-ce que Pôle emploi, est-ce qu'il y a, un acteur tiers
extérieur
qui t'aurait aidé également dans ta formation, dans le financement, mais également peut-être t'épauler pour savoir quoi faire, où aller dans tes démarches?
Alors pour le coup, pas vraiment. Comme j'ai dit, j'ai fait donc mes recherches seules sur les écoles parce que moi, j'avais un peu déjà... en fait, c'est assez rapide de faire ces recherches-là. En fait, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai contacté pas mal d'hypnothérapeutes que je ne connaissais pas nécessairement pour leur poser des questions sur leur parcours, s'ils avaient des conseils sur leur installation, enfin voilà, vraiment pour avoir un overview, on va dire, du métier. Me renseigner aussi sur les avis des formations des écoles. J'en avais identifié 3 qui m'avaient l'air correct et bien recommandé, et de qualité surtout, parce que en hypnose il faut faire très attention, on peut trouver vraiment plein de choses, même en présentiel, mais aussi sur internet, des formations soit à 500 balles soit à 5000 balles pour 3 jours de formation, clairement c'est niette. Mais donc du coup voilà, j'ai contacté des hypnos pour un peu finaliser mon projet, et après je me suis inscrite toute seule auprès de l'école que j'avais choisie. Et en fait, Pôle emploi n'est intervenu que plus tard, parce que je me suis réinscrite après ma rupture conventionnelle. Et bon, il y a eu un petit bug avec mon conseiller, etc. Mais ils ont mis à ma disposition des ressources plus sur la création d'entreprise, les aides auxquelles j'avais le droit par rapport à mon allocation chômage. Donc voilà, ce genre de choses-là un peu plus techniques. Mais ça, c'est arrivé vraiment après. Et l'hypnose en fait n'est pas finançable pour le moment par le biais de fonds publics comme des organismes de formation, Pôle emploi, etc.
Une autre question par rapport à ça justement, est-ce que le diplôme que tu as, il est certifié au niveau de l'État ou par rapport à...
Alors non, l'hypnose aujourd'hui c'est pas un métier qui est RNCP, donc qui n'est pas enregistré au registre national des professions. C'est comme la PNL d'ailleurs, c'est pas le cas non plus. Il y a pas mal de métiers qui ne le sont pas encore. Néanmoins, il y a plusieurs syndicats d'hypnose qui sont en discussion justement pour obtenir cette certification RNCP, donc la reconnaissance de l'État, parce que on en parlait tout à l'heure, c'est un métier qui est en plein essor, qui va continuer de l'être, je pense, avec notamment les conséquences sur la santé mentale des Français post-confinement. Donc c'est des choses qui sont en discussion, et c'est pour ça que de plus en plus dans les écoles, ils recommandent de suivre un mini-séminaire qui s'appelle Psychopathologie, et qui permet notamment d'identifier des clients qui viendraient et qui pourraient avoir certains troubles psychiques et mentaux. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes d'avoir dans son bagage pour commencer. Mais du coup, j'ai une certification, moi, de mon école, qui est PSYNAPS.
D'accord.
C'est dans le nord de Paris. Et c'est une certification qui est aussi internationale, en fait. D'accord. Et qui rejoint un syndicat, c'est la NGO, et le WO aussi, qui sont deux syndicats internationaux sur l'hypnose.
D'accord, non mais c'était juste voilà, pour peut-être que les auditeurs et auditrices peut-être se poseront
ou
connaissent déjà la question, mais je trouve que c'est intéressant. Mais effectivement, il y a pas mal de formations comme ça qui ne sont pas celles de...
Même certaines formations coaching aussi, t'en as qui sont RNCP, mais pas toutes.
Non.
Donc voilà, en fait, c'est des choses après...
Ça viendra.
Ça viendra, et après, soit on le prend comme critère ou pas aussi, tout dépend de plein de choses, du contexte.
Et du coup, tu t'es auto-financée, si je comprends bien, pour cette formation.
Ouais,
c'était un montant de combien, un peu approximativement
La formation d'hypnose, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs niveaux.
Oui.
Il y a trois niveaux en hypnose. Il y a le technicien qui permet de voir les bases.
Mm-hmm.
Il y a le praticien qui est ce que j'ai et qui permet de pratiquer déjà. Et après, au maître praticien, qui est donc le dernier stade, entre guillemets, où là, on voit plus des spécialisations. Donc, par exemple, l'arrêt du tabac ou la perte de poids, les rêves éveillés, ce genre de choses.
Mm-hmm.
Donc, moi, pour le praticien, si je ne dis pas de bêtises, c'était environ 2500 euros.
D'accord.
Et après, la PNL, c'était un peu plus cher. On était dans les 3000, 3002 ou 3005, je crois, sachant que l'école par laquelle je suis passée, j'ai eu, encore une fois, pas mal de chance parce qu'ils ont fait des promotions post-Covid et pour les 15 ans de l'école. Donc du coup j'ai bénéficié de 30% de réduction sur les formations, ce qui est vraiment non négligeable.
C'est clair, non, mais c'est quand même conséquent effectivement. Moi j'avais une j'ai une question, donc j'en ai deux. Tu as suivi une formation en hypnose et en PNL, combien de temps ont duré chacune, et est-ce que tu peux nous expliquer la complémentarité entre les deux, pourquoi tu t'es penchée vers le PNL dernièrement? Est-ce que tu peux apporter un éclairage là-dessus?
Ouais. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'hypnose, et la PNL d'ailleurs aussi, les formations sont relativement courtes dans le temps. Ça paraît assez étrange qu'on puisse pratiquer après aussi peu de temps. Par exemple, le praticien en hypnose, c'est 2-3 semaines. Donc c'est super rapide. Le maître praticien, ça rajoute 2 autres semaines. Donc on est à environ un mois et demi de formation en gros. La PNL, c'est un peu plus long. C'est 3 semaines, un mois pour le praticien. Et c'est la même durée, si je ne m'abuse, pour le maître praticien. Donc en fait c'est assez rapide parce que ce qu'on apprend, ce sont des techniques. On apprend vraiment les mécanismes sur lesquels fonctionne l'inconscient. Donc à partir du moment, donc par exemple c'est une façon de parler, c'est certaines expressions à utiliser, c'est certains gestes aussi, des étapes dans des protocoles, ce genre de choses là. Et en fait à partir du moment où on maîtrise ces bases, on peut allier la créativité et en fait raconter des histoires avec des images, avec des métaphores, avec des symboles. Mais il faut savoir que tous les hypnos ont leur propre méthode en fait, de faire des séances. C'est-à-dire que si tu vas voir un hypno pour un arrêt du tabac et ensuite tu vas voir son voisin, et ben potentiellement la séance sera totalement différente malgré le fait qu'ils aient pu faire la même formation à la même école au même moment. Donc c'est ça qui est assez chouette parce que du coup ça permet d'allier une grande créativité dans ce métier, sachant qu'en fait tu t'adaptes à ton client. C'est-à-dire que, tu vois, si tu as un chef d'entreprise qui vient te voir pour quelque chose, pour des problèmes de sommeil, tu vas peut-être lui faire une métaphore par rapport à, je sais pas, un ordinateur qui trierait ses fichiers, un antivirus, blablabla. Alors que si tu as une petite fille de 10-12 ans, tu vas peut-être plus lui parler d'une princesse ou d'une licorne magique, tu vois. Enfin, donc, tu peux vraiment adapter tes images sur ça. Et ensuite, la complémentarité des deux, c'est que en hypnose, pour schématiser, on travaille avec l'inconscient. Donc, l'hypnothérapeute travaille avec l'inconscient, c'est-à-dire que la personne peut avoir les yeux ouverts ou fermés, elle peut être assise, debout, allongée, elle peut parler ou ne pas parler. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on va utiliser ce qu'on appelle le langage flou.
D'accord.
Pour permettre à l'inconscient de créer ses propres images derrière. Alors qu'en PNL, c'est beaucoup plus orienté coaching. Et c'est-à-dire qu'une séance de PNL, ça va... Alors, je ne dis pas que c'est que ça, mais c'est davantage vraiment dans la discussion. Et on va écouter la personne, les mots qu'elle utilise, pour cibler les croyances limitantes qui pourraient y avoir derrière. Par exemple, quelqu'un qui dit, qui vient de voir et qui dit « Ah là là, je suis toujours en colère, ça va pas quand je vois ma mère, je sors de mes gonds. » Et là, on va dire « Toujours ? Vraiment toujours ?» Puis elle va dire « Bah non, pas toujours, il y a forcément des fois où je m'entends bien avec ma mère. » Ah, donc ça veut dire que des fois, ça va bien avec ta mère. Et là, déjà, on commence un peu à déconstruire certaines croyances par le dialogue. Donc en fait, en PNL, on utilise un langage qui est beaucoup plus précis. Donc, c'est l'inverse en fait, de l'hypnose, d'où cette complémentarité.
D'accord, c'est hyper intéressant, peut-être ouais, pour mieux peut-être cerner certains problèmes ou en tout cas les résoudre. Du coup, tu as plusieurs outils en fait.
Exactement. Et en fait, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure sur le déroulement d'une séance. Je prends peut-être un petit peu d'avance.
Vas-y.
Mais en fait, une séance, ça dure, alors ça dépend encore une fois, mais environ, on va dire, une heure. Et du coup, au début, l'hypnothérapeute va recevoir le client qui va lui exposer son... Alors, on ne dit pas vraiment problème, on préfère de parler d'objectif, par exemple, objectif, arrêter de fumer, etc., qu'on va ensuite reformuler de façon positive. Du coup, pendant 20-25 bonnes minutes, on va simplement échanger sur cet objectif, le recadrer, voir ce qu'il y a comme croyance derrière, comme valeur, par le dialogue. Et en fait, déjà à ce moment-là, la personne, en se concentrant sur des questions qu'on va lui poser un petit peu saugrenues, un petit peu étranges, on va déjà la mettre dans un état de conscience modifié. Et ensuite, ça va permettre de pratiquer en hypnose et de travailler sur ce qu'on appelle le plateau thérapeutique, où là, la personne sera vraiment totalement en hypnose et on va accéder directement à l'inconscient. Donc en fait, l'exercice d'hypnose proprement parler, il dure... une vingtaine de minutes, donc on a 20-25 minutes de détermination d'objectifs, ensuite une vingtaine de minutes avec l'exercice, que ce soit la PNL ou l'hypnose, et ensuite à la fin on peut débriefer ou refaire un autre exercice, ça dépend. Du coup ça fait un découpage grossièrement comme ça. Intéressant aussi c'est au niveau des résultats, c'est-à-dire que l'hypnose et la PNL ce sont des thérapies qui sont dites brèves, c'est-à-dire que pour un objectif, on peut compter entre 1 à 10 séances environ.
Tu réponds à ma question.
Voilà. Donc, j'ai pris un peu d'avance, mais c'est 1 à 10 séances. D'accord. Et bien sûr, ça dépend du souci. En arrêt du tabac, ça peut se faire en une séance. Ça peut aussi en se faire en 5, selon la personne. Après, pour tout ce qui est phobie, trauma, potentiellement, ça va être un peu plus long. On va peut-être plus tirer vers les 7, 8, 9 séances. Et au niveau des résultats aussi, de voir les résultats en tant que client, en hypnose, vu que c'est un travail qui se fait de façon inconsciente, la personne ne se rend pas nécessairement compte des changements qu'il y a eu. Bon, sauf si c'est des trucs très concrets, par exemple enlever un cauchemar ou l'arrêt du tabac, bon, la personne, là, bien sûr, va s'en rendre compte. Mais si c'est plus des questions de confiance en soi, d'estime de soi, etc., c'est plus après coup, à la prochaine séance, quand on va lui demander alors qu'est-ce qui a changé depuis et que la personne va nous dire « Ah ben, pas grand-chose, mais j'ai fait ma réunion avec mon chef et du coup, je lui ai dit que ça, ça, ça. Mmh. » Puis là, on va dire bah, « En fait, du coup, vous avez donc réussi à tenir tête à votre chef et ça s'est passé comment ?»« Ah bah ouais, je m'en étais pas rendu compte. » Parce qu'en fait, c'est un changement qui est intégré directement. Alors qu'en PNL, vu qu'on passe par le dialogue, c'est un changement qui se fait plus en déclic.
Ouais.
Et si tu fais la connexion voilà, pendant une discussion, des fois, tu as des personnes qui te regardent et qui disent oh « Ah, mais c'est pas vrai, mais ça veut dire que ça, et donc machin. Ah, mais c'est incroyable !» Et du coup, là, tu as plus le déclic directement.
D'accord, c'est super intéressant. C'est des choses, tu vois, j'ignorais. Je pense que peut-être les auditeurs ou auditrices aussi, ou en tout cas peut-être qu'ils en apprennent un peu plus, mais c'est effectivement... c'est tout un mécanisme, en fait, à l'intérieur. Moi, j'ai quelques questions un peu plus spécifiques. Tu parlais, donc tu as eu cette idée de reconversion qui s'est fait naturellement. En écoutant du coup les témoignages de personnes autour de toi, de ta génération en particulier, qui se plaignaient de leur travail, est-ce que du coup, dans ta pratique d'hypnose, en tout cas en tant que hypnothérapeute, tu comptes te spécialiser dans justement tout ce qui est reconversion professionnelle par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport au monde du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou pas du tout?
Honnêtement, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait parce qu'en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Donc, même si on a tous des expériences assez différentes de ce désir de reconversion ou de ce mal-être au travail, parce que peut-être qu'en fait c'est juste un mal-être professionnel et qu'il faut juste changer de travail tout en restant dans le salariat, hein. Mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresserait de faire et de travailler avec, tout à fait.
Est-ce que du coup, par rapport à 2021, j'ai une autre question. Quels sont tes objectifs du coup pour 2021 alors que tu es fraîchement diplômée? Quelles sont tes prochaines grandes étapes pour toi?
Du coup, les prochaines grandes étapes, c'est de constituer d'une part une clientèle, vu que là, je lance mon auto-entreprise là, aujourd'hui.
Félicitations.
La date de l'enregistrement. Donc voilà, ce serait vraiment, vraiment ça en fait, et pouvoir trouver ce point d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir m'épanouir professionnellement, personnellement, et du coup ça passe forcément par l'aspect également financier. Mais j'aimerais aussi, j'ai plein de projets en fait par rapport à l'hypnose, parce que je trouve que aujourd'hui, bien que ça se démocratise, il y a quand même une image encore un petit peu soit vieillotte, soit un petit peu occulte, c'est pas le bon mot, mais un peu magique, un peu ésotérique.
Oui.
Et moi, j'aimerais bien en fait démocratiser ça, parce que bah, voilà, je suis jeune, j'ai 27 ans, je parle aussi des problématiques professionnelles, estime de soi, confiance en soi, le côté prépa mental. Donc c'est vraiment des choses que j'aimerais bien développer, et c'est pour ça que là, récemment, je me suis mise à diffuser des vidéos sur mon compte Instagram, et j'ai pour projet, donc c'est bien parce que je le dis là dans le podcast, donc je serais obligée de le faire. mais pourquoi pas démarrer aussi une chaîne YouTube par exemple.
Ouais, non, ça serait intéressant. Ou pourquoi pas un podcast, puisque tu es déjà dans le monde, effectivement. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant que tu vulgarises ça, parce que je pense que des personnes de ton âge qui font de l'hypnose, en tout cas, j'en connais pas beaucoup.
Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup dans les thématiques que moi je souhaite aborder. Parce que dans mes formations, on était vraiment. Il y avait tous les profils, c'était super intéressant. Il y avait aussi bien des personnes du corps médical que des gens qui étaient encore étudiants, reconversion pro, etc. Ça allait de 20 à 60 ans et plus. Mais pour autant, c'est vrai que celles avec qui avaient mon âge se reconvertissent. Il y a du magnétisme, il y a des qualifications avec les femmes enceintes, le côté sophro, tout ça. Mais un peu moins sur ce que moi je veux faire. Donc, comme tu dis, vulgariser et surtout rajeunir l'hypnose.
Et bah, je te le souhaite en tout cas.
Assez gentil.
J'ai une dernière question par rapport à tout ce qui se passe actuellement, parce qu'on va dire que tu es quand même courageuse. Je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais bon, même s'il y a une reconversion professionnelle qui s'est faite, que tu as touché le chômage, du coup, qui te permet éventuellement de vivre, de te nourrir. moi, je trouve ça courageux d'avoir sauté le pas en pleine période de pandémie, où le confinement, on va dire, n'aide pas trop à tout ce qui est rapport humain en dehors d'un écran. Comment tu envisages du coup la pratique de l'hypnose ? Est-ce que ça peut se faire à travers un écran, ou comment tu le vois par rapport à ça, la digitalisation ?
Déjà, merci de me dire ça. Ça fait plaisir, et en même temps, c'est un retour qu'on m'a fait plusieurs fois, que c'était courageux, voire ambitieux, voire flippant pour mes parents. Big up à mes parents. De me reconvertir à ce moment-là. En fait, pour moi, c'était le bon moment, dans le sens où la société est en train de changer, la conception du monde du travail est en train de changer. Et donc, en fait, je ne l'ai pas vu comme un risque, je l'ai vu comme une opportunité. Mm-hmm. Et que dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas, je trouverais bien un moyen de retomber sur mes pattes d'une façon ou d'une autre. Comme tu l'as dit, je bénéficie aussi de l'aide de retour à l'emploi. Donc, ça, c'est aussi un soutien non négligeable. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment plus le côté opportunité à saisir. Et pour te répondre à ta deuxième question, qui était, si tu peux me la rappeler.
Excuse-moi, oui, non, mais c'était par rapport à tout ce qui était digitalisation. Est-ce que ta pratique d'hypnose, est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire à travers un écran ou pas du tout ? Comment tu l'envisages ?
Bah, totalement, en fait. On pourrait croire que c'est assez étrange, mais finalement, ça peut totalement se faire par visio. Et d'ailleurs, étant donné que là, j'exerce sur Paris, moi, je suis basée tout petit peu en dessous, je suis à Montrouge, mais du coup, je me déplace sur Paris. J'ai pas encore de cabinet, donc comme je le disais hors podcast, je loue des cabinets à l'heure qui permettent de faire des séances. Mais je propose également des accompagnements en visio. L'hypnose est totalement possible par visio, parce qu'en fait, j'ai juste besoin, moi, que la personne ait une caméra, que je puisse la voir, et un micro. L'idéal, c'est d'avoir des écouteurs ou un casque pour qu'elle puisse bien m'entendre. Mm-hmm. Mais mon outil de travail, c'est ma voix.
Ouais.
Donc, à partir de ça, ça peut même se faire en fait par téléphone.
Oui.
Donc, bon, pour commencer, en visio, c'est quand même plus simple, mais c'est totalement possible. Donc, c'est quelque chose que je souhaite aussi oui. développer.
Ah oui, bah, bon, c'est positif pour toi. Je pense que ça...
Bah, c'est vrai que ça permet de s'adapter. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve pour 2021, mais dans tous les cas, la digitalisation du métier est une possibilité totalement envisageable. Et en fait, d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, il y en a déjà qui proposent certains audios ou certaines chaînes YouTube avec des guides en fait d'auto-hypnose. Mm-hmm. Des trucs qui sont enregistrés, donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaille également, et en fait c'est comme des podcasts, les applications qui sont à la mode en ce moment de méditation.
Oui.
C'est quelque chose qui est guidé à partir du moment où voilà, on est bien accompagné et que le protocole est bien fait, tout se passe bien quoi, et ça fonctionne vraiment super bien. Moi personnellement, je fais de l'auto-hypnose tous les jours.
D'accord. Et ça, ouais. Ça consiste du coup à écouter une...
C'est ça, en fait, je suis inscrite à plusieurs ressources en ligne et voilà, il y a des thèmes divers et variés, amélioration des performances, les peurs, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et tu mets ton ordinateur ou tu prends ton téléphone, tu mets tes écouteurs et après je suis juste assise sur une chaise ou sur mon canapé ou dans mon lit, je ferme mes yeux et puis... Puis voilà, et ça part pour 20-30 minutes d'exercice. Okay.
T'en recommanderais quelques-uns. Et est-ce que c'est quelque chose que tu mettrais en place pour des...
Ouais, totalement, ouais. Totalement. C'est quelque chose que, en fait, j'aimerais bien proposer à la fois des vidéos. Donc là, comme je le disais, j'ai commencé sur Instagram, mais sur YouTube également, mm-hmm. pour vulgariser, démocratiser, ouais. expliquer ouais. les fonctionnements. Et j'aimerais bien aussi mettre en place sur mon site plusieurs guides audio d'auto-hypnose guidée
ouais.
et proposer quelque chose peut-être pour commencer en fait pour les débutants, genre découverte de l'auto-hypnose, parce que c'est vrai que on va peut-être pas commencer avec des séances de 45 minutes sur les peurs
ouais.
voilà, mais des petits exercices qui sont assez sympas. Et pour la petite anecdote, je fais aussi de l'hypnose de spectacle.
D'accord.
Donc voilà, pareil, ça c'est des choses que je peux utiliser en séance. Pour le coup, ça c'est un peu plus compliqué.
L'hypnose de spectacle, c'est-à-dire
c'est vraiment le côté mesmer en fait, ce qu'on voit à la télé. Donc par exemple, coller les doigts à quelqu'un, coller ses mains, lui faire oublier son prénom, lui faire oublier un chiffre, des choses comme ça.
C'est
ça, c'est le petit côté pour les apéros. En
fait. Je veux voir ça. Je trouve ça génial. Mais en plus, c'est vrai que tu as une voix plutôt apaisante. Je pense que les auditrices confirmeront, mais c'est vrai qu'effectivement. Enfin, après, je ne sais pas si dans la pratique de l'hypnose,
c'est encore plus doux. c'est vrai que dans l'hypnose, on a tendance à parler. De façon très calme, un petit peu comme ça, et puis après, tu vois, tu peux imaginer un chemin devant toi. Je vais pas continuer, sinon tu vas partir en hypnose. Et les auditeurs aussi.
J'offre une séance d'auto-hypnose à tous les auditeurs. Non, mais du coup, bah, c'était chouette. Je pense que l'interview va s'arrêter là, sinon bah, je vais pas envie que tout le monde part en hypnose. Mais en tout cas, c'était super intéressant déjà d'en apprendre plus. À la fois sur l'hypnose, mais également la possibilité de cette thérapie, parce que c'est ce qu'on peut utiliser, mmh. pour se découvrir et mieux se connaître
totalement.
Pour une reconversion professionnelle ou par rapport à sa vie professionnelle ou à son équilibre pro-privé. Et tu nous as également bien décrit ce que c'était. Et effectivement, comprendre toute ta reconversion. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est bon courage pour l'année à venir avec tous tes projets. On va suivre ça de près sur Instagram et puis sur YouTube. On verra pour YouTube, parce que je crois pas que c'est tout de suite encore là que tu t'es lancé. Non, c'est que Instagram pour le moment.
Pour l'instant, c'est Instagram, Facebook. Après, j'ai ma page YouTube, mais il n'y a pas encore de vidéo dessus. Mais la première est prévue pour janvier.
Voilà.
Donc,
on note tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Manon.
Bah, merci infiniment à toi, Océane.
Et à bientôt dans les réseaux.
À bientôt, ouais, c'était une super expérience.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter, @ledéclicpodcast, et Instagram, @le.déclic.podcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain rendez-vous.